mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes d'attaque et des journalistes de PIAF et des militants de l'attaque.
Et nous recevons Aurélie Trouvé, maître de conférence en économie, qui vient nous parler de son livre Le business est dans le pré, en écho avec la crise de l'élevage en cours. Mais pour commencer, et bien entendu, les chroniques d'actualité de Jean-Marc, qui commence par nous parler du bienheureux Cahuzac.
Oui, alors j'ai intitulé ma chronique 197 nuances de Cahuzac et vous allez comprendre pourquoi. Le jour de l'ouverture du procès Cahuzac, des faucheurs de chaises sont venus solennellement restituer les chaises dérobées les mois précédents dans les agences des banques pratiquant l'évasion fiscale. Donc 197 nuances pour 197 chaises qui ont été rapportées et déposées à proximité du palais de justice, pas devant le palais de justice, évidemment les policiers ne les ont pas laissés faire, mais il y a de très très belles photos que vous pouvez trouver sur internet montrant donc ces 197 chaises rangées sur un pont de Paris. C'est assez croquignolet. Alors, le procès Cahuzac, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui ne va pas très très loin, parce que pendant qu'on occupe la galerie avec ce personnage, eh bien, les patrons des banques continuent à faire n'importe quoi, et à la différence des Goodyear, eh bien, ils ne risquent toujours pas la prison. Alors, la restitution était faite, entre autres, pour faire parler, justement, non pas de Cahuzac, dont on a déjà plus que parlé, et même trop parlé, mais plutôt pour rappeler que, pendant qu'on amuse la galerie avec des péripéties, donc politiques et péripéties judiciaires, eh bien, les banques continuent à faire n'importe quoi, alors que... Eh bien, les signaux d'alarme sont tous au rouge. Les banques, les unes après les autres, subissent des stress tests, comme on dit en bon français, et montrent toutes leurs faiblesses dans tous les pays du monde. Donc le système bancaire est prêt à s'écrouler de nouveau, comme en 2008. Et comme en 2008, rassurez-vous, personne ne fait rien. Ni au niveau français, ni au niveau européen, ni au niveau américain, ni au niveau du FMI. Et en 2008, on avait eu plein de discours, plein de promesses pour que ce soit transparent, pour que ce soit propre. Rassurez-vous, c'est toujours aussi opaque et c'est toujours aussi dégueulasse. Alors, c'est pas grave, parce que s'il ne se passe rien, la France prend des mesures importantes, notamment Macron est toujours ministre de l'économie. Et ça va tout changer, ça va moraliser la donne. Et bien, deuxième chose rassurante, c'est que si tous les gouvernements du monde continuent à se payer notre poire à propos des banques et des paradis fiscaux, et bien, par contre, l'extrême droite est tout à fait prête à prendre le pouvoir dans tous les pays à la faveur d'une nouvelle crise.
Juste pour expliquer d'où viennent ces chaises, ce sont plusieurs associations, donc BISI, une association intermondialiste du Sud-Ouest, et l'association ATTAC, bien connue, qui sont allées dans différentes banques, différentes agences, un peu partout en France, pour s'emparer de chaises, afin de témoigner du fait que si les banques sont des voleurs, des associations peuvent l'être aussi. Alors ce petit vol de chaises, on en reparlera peut-être, il y a même des mises en examen pour avoir volé une chaise, alors que des mises en examen de banquiers, il n'y en a pas eu.
Bah oui, c'est pas du même côté de la barrière.
Alors, autre sujet, beaucoup plus local ici, vu que cette station de radio est dans Paris, dans le 19e, pas très exactement, mais dans le 18e, juste à côté, tu as envie de nous parler de dinosaures urbains.
Alors, les dinosaures urbains, c'est une espèce qui, normalement, devrait être disparue depuis longtemps, mais qui perdure. Et c'est le cas dans le 18e arrondissement de Paris, avec des dinosaures de compétition qui adorent donc bétonner. Alors, pas la peine d'aller au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est surfait, parce que là-bas, vous ne trouvez que des ossements. Dans le 18e, vous en trouvez qui sont en chair et en os et qui continuent à être actifs. Alors, il y a notamment l'ancien maire, Daniel Vaillant, qui est un dinosaure en pleine forme, et l'un de ses adjoints, beaucoup moins connu, mais qui a un nom sympathique, qui s'appelle Michel Nerneuf, qui ont bétonné allègrement entre les années 80 et les années 2000, et qui... Bon, ils sont jeunes, hein, ils ont 70 et 65 ans, je crois. Donc, ils continuent leur carrière, c'est normal. Et ils continuent leur carrière dans le béton. Et ils veulent bétonner encore le 18e, ce qui est logique puisque c'est déjà l'arrondissement le plus dense de Paris pratiquement, et un arrondissement dans lequel il y a le moins d'espace vert de tout Paris. Donc la logique des choses, c'est que quand la mairie centrale annonce 100 hectares de végétalisation, 30 hectares d'agriculture urbaine, alors que le 18e arrondissement dépasse 33 300 habitants par kilomètre carré, la moyenne de Paris c'est 21 300, le 18e a 3% de parcs et jardins contre 6,5% pour Paris, eh bien les dinosaures du 18e s'apprêtent à construire de nouveaux projets immobiliers. Alors il y a un grand projet à vocation universitaire, c'est très bien, à La Chapelle, sur environ 5 hectares, des nouveaux bâtiments à l'est des voies ferrées, donc de la gare du Nord, pour 5 hectares, béton assuré, il y aura juste des terrasses couvertes d'herbes, ça fait joli d'avion, mais ça apporte pas grand chose. Et cerise sur le gâteau, un projet immobilier, toujours sur des emprises SNCF, sur 3,5 hectares, c'est pas négligeable en plein Paris, sauf que sur ces 3,5 hectares, il prévoit 500 à 650 logements, en bord de voies ferrées, ce qui va pas du tout donner un ghetto, des bureaux et un hôtel. Et au mieux du mieux, 4000 m² de pelouse. Sachant que dans le projet initial, les 4000 m² de pelouse sont enfermés dans des immeubles de 9 étages. Ça va être superbe au niveau de l'ensoleillement et puis de l'agriculture. Alors, le tout en détruisant le patrimoine, puisqu'il s'agit de remplacer des hangars magnifiques de la SNCF qui sont des hangars donc des années 30, avec des nefs qui culminent pour certaines à plus de 10 mètres de haut, qui sont entièrement sous verrière, qui serait très facile à réhabiliter, eh ben la SNCF et la mairie du 18e envisagent d'utiliser les tractopelles pour mettre tout par terre et construire des immeubles de 9 étages. 9 étages en plein Paris, c'est sûr que c'est très écologique et que ça va totalement dans la ligne de la mairie. Alors,
et pourtant, les écologistes sont au gouvernement, tout va changer, n'oublie pas.
Alors, non, mais ce qui est terrible, c'est que ce sont des dinosaures locaux à l'intérieur d'une mairie centrale qui, elle, est beaucoup moins vétuste. Mais qui continue à faire la pluie et le beau temps dans un arrondissement. Et pourtant, ils ont fait des catastrophes. Et l'une des belles catastrophes que tout le monde peut voir et admirer, c'est par exemple la catastrophe de la Goutte d'Or, qui a été voulue par les deux mêmes personnes. Réhabiliter la Goutte d'Or, c'était pas mal. C'était des taudis, c'était infâme. Donc, il s'agissait de réhabiliter pour que les gens vivent mieux. Alors on a fait des années et des années d'études, des années de travaux et de chantiers absolument impossibles, du bétonnage dans tous les sens. Maintenant on a un ghetto tout neuf, un ghetto qui n'est plus insalubre, mais un ghetto quand même. Parce qu'on continue à entasser les mêmes populations, on continue à avoir une mixité proche de zéro, on continue à n'avoir aucun espace vert, et on a des immeubles neufs qui sont très moches et déjà dégradés au bout de 5 ans. Donc, à fort de cette grande expérience, bah, comme on change pas une équipe qui perd, comme dirait François Hollande, et donc bah, ils envisagent de faire la même chose sur les emprises SNCF. Alors, pour finir, Fox News proposait, à la suite des attentats, des visites de Paris, des no-go zones, ce qui avait fait scandale. Mais finalement, au regard de cette politique immobilière du 18e arrondissement, on pourrait se demander si effectivement il n'y a pas des no-go zones à visiter dans le 18e, présentes, passées, futures. Et là, ce qu'on nous prévoit, ça pourrait ressembler, puisque ça va être un lotissement à la Saddam Hussein.
Eh bien, on voit que tu tiens ce sujet bien à cœur. Un autre sujet, et un petit dernier pour la route, un petit coup sur Erdogan quand même.
Ah ouais, bah Erdogan, c'est l'un de mes chouchous. Faut dire, un enfoiré pareil, c'est pas tout le temps qu'on en a. Il y en a à peu près un tous les 30-40 ans aussi beau. Donc il faut en parler. Alors, il y a des personnages comme ça dans l'histoire littéraire ou dans l'histoire tout court qui ont laissé leur nom. C'est comme ça qu'on retrouve dans le vocabulaire courant Narcisse, Crésus, Candide, Figaro, Mécène, et qui sont devenus des noms communs. On a aussi des noms qui sont moins connus en France, mais qui sont connus dans certains pays, comme Quisling. Quisling en Norvège, qui est l'équivalent de enfoiré, du nom du dirigeant de collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, moi je propose qu'on rajoute dans ces néologismes tirés de personnages existants, Erdogan. Erdogan, qui est un personnage très complet, puisque vu le nombre d'arcs, de cordes qu'il a à son arc, on pourrait, avec Erdogan, décrire le mot démagogue, on pourrait décrire le mot corrompu, affairiste, boucher, raciste, intégriste, mégalo, j'en passe et des meilleurs. Je propose aussi pour la fine bouche, et parce que j'aime bien la formule, bête immonde du Bosphore, je trouve que ça a un petit côté sympathique. mais c'est moins facile à placer. Alors, pour finir, quand même, il faut savoir qu'Erdogan, la semaine dernière, s'était encore distingué en traitant quelqu'un de terroriste. C'est assez souvent qu'il traite des gens de terroristes, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et là, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky, qui est un gros, gros terroriste bien connu mondialement.
Noam Chomsky, qui est un penseur, philosophe, sémiologue, je crois, à l'origine, et qui est un des penseurs les plus écoutés, on va dire, à gauche, dans la vraie gauche.
Donc il l'a traité de terroriste pour une bonne et simple raison, c'est qu'il avait signé une pétition qui n'était pas tout à fait favorable à Erdogan.
Je crois qu'il s'était déjà fait traiter de terroriste par différents dirigeants américains à l'époque de la guerre du Vietnam, déjà dans sa jeunesse. Donc il y a une certaine continuité. Alors en parlant de continuité, nous allons bientôt parler d'agriculture et pour se préparer à ce thème, pourquoi ne pas rentrer dans nos petits villages ? On va écouter Ridan Ulysse.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attac.
Et nous recevons ce soir au téléphone Aurélie Trouvé, qui est maître de conférence en économie, qui est aussi membre du conseil scientifique d'Attac, l'association dont elle a été d'ailleurs coprésidente il n'y a pas très longtemps. Et donc Aurélie, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on te reçoit au propos de ton ouvrage, Le business est dans le pré. Le sous-titre, c'est Les dérives de l'agro-industrie. En première page, on a une belle vache avec un code-barre dessus. Ça laisse tout de suite penser à ce que veut dire transformer la nature et la nourriture ou les animaux en argent. Et on te reçoit aussi en fonction de l'actualité parce que on entend parler partout de la crise de l'élevage, la crise du porc, principalement des éleveurs de porc et aussi de l'industrie laitière, enfin l'industrie. On devrait dire, des producteurs de lait, il y en a de tout type. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le point de départ de cette crise ?
Alors, le point de départ, en particulier sur le lait, mais c'est valable aussi sur le porc, c'est qu'on a une chute des prix très longue. Là, ça fait 2 ans, et avec des chutes de revenus, du coup, des paysans, qui, pour beaucoup, n'arrivent plus à couvrir leurs coûts de production. C'est-à-dire que pour beaucoup, là, ils produisent à perte. Et le problème, c'est que ça n'est pas prêt de s'enrayer parce que même si y a chute comme ça des prix, eh bien en fait, les producteurs européens, en moyenne, produisent toujours et toujours plus, malgré la chute des prix. Et alors du coup, on est dans une spirale infernale. Vous allez me dire, pourquoi, comment ça se fait que ça se passe maintenant ? Mais il faut savoir que sur le lait, notamment, il s'est passé quelque chose depuis quelques années. C'est une dérégulation brutale et rapide des marchés, c'est-à-dire qu'avant, les producteurs laitiers avaient des prix garantis minimum qui stabilisaient leurs prix et qui faisaient que les prix européens ne suivaient pas les cours internationaux. Ils étaient relativement stables d'année en année. Et puis, on a décidé de déréguler ces prix, de les aligner sur les cours internationaux pour être, entre guillemets, plus compétitifs à l'international. Donc, il n'y a plus de prix garantis pour les producteurs d'un mois, d'une année sur l'autre, les prix peuvent faire complètement yo-yo. Ils peuvent baisser ou monter de 20, 30% d'une année sur l'autre. Et c'est extrêmement, extrêmement compliqué pour les producteurs.
Et donc, qu'est-ce qui permettait avant cette régulation et quel est l'événement ? Enfin, je crois que c'est la PAC là, qui s'est un peu complètement évoluée. Et pourquoi est-ce qu'elle a eu ce changement de politique ?
Alors, la politique agricole commune, effectivement, c'est elle qui garantissait ces prix garantis aux producteurs laitiers et auparavant encore pour la viande bovine, les céréales, etc. C'est des décisions qui ont été prises après la Seconde Guerre mondiale quand on a fait la communauté économique européenne dans les années 50 et qui a permis pendant des dizaines d'années de stabiliser ces prix pour les producteurs, de garantir la sécurité alimentaire, etc. Mais en plus, dans le lait, il y avait quelque chose de très intéressant, c'était ce qu'on appelait les quotas laitiers, qui permettaient de plafonner les volumes et de ne pas rentrer dans des cycles de surproduction. Et donc ça fonctionnait assez bien, évidemment il y a quelques limites, on aurait pu les arranger, mais ça fonctionnait assez bien dans le secteur laitier, c'est-à-dire qu'en même temps on avait ces prix garantis et ça coûtait pas trop cher à l'Europe de les garantir et de faire du stockage notamment, hein, c'est-à-dire que quand les prix baissaient trop, on rachetait la production, on la stockait et on la revendait plus tard. Et donc, ça régulait comme ça les marchés, plus les quotas qui permettaient de ne pas faire de surproduction. Tout ça a été démantelé dans les années 2000 et 10 ans auparavant, d'ailleurs, pour la viande bovine et pour les céréales, parce qu'on a voulu répondre d'abord aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire il vaut mieux que ce soit le marché qui régule tout ça et pas la puissance publique. Et puis, on a voulu aussi répondre aux exigences, notamment du Royaume-Uni, d'un certain nombre de pays qui ne voulaient plus de cette politique agricole commune et qui avaient une tradition sans doute beaucoup plus libérale. Et puis aussi parce qu'il y a des divergences de plus en plus fortes au niveau européen à 28. Hein, et aujourd'hui, on n'arrive plus à se mettre d'accord sur des politiques de régulation forte de marché. Donc, on se retrouve comme ça avec des prix intérieurs qui font yo-yo, qui sont en fait dépendants des cours internationaux. Et c'est un univers extrêmement instable pour les producteurs laitiers.
Et cette concurrence internationale, elle est aussi intra-Europe. On entend beaucoup d'éleveurs de porc, par exemple, se plaindre de la concurrence au sein même de la communauté européenne.
Oui, alors voilà, il y a aussi ce problème que, eh bien, comme il n'y a plus les quotas aussi, les forces sont libérées, quelque part, les forces de production sont libérées, tout le monde peut produire autant qu'il veut. Et puis donc il y a une course à l'agrandissement et à la production, à la surproduction pour aller capter les marchés des autres. Et même si les prix chutent, on continue à surproduire. Donc on est vraiment dans une spirale infernale. Et puis la deuxième chose, effectivement, le deuxième élément très important dans la concurrence intra-européenne, c'est pas valable que pour l'agriculture, c'est un dumping fiscal et social dans le sens où, notamment en Allemagne, par exemple, on est capable de transformer du porc à des beaucoup plus faibles coûts parce que, par exemple, dans les abattoirs allemands, on utilise beaucoup plus de travailleurs détachés. Vous savez, c'est ces travailleurs qui proviennent de boîtes intérimaires étrangères, souvent, et qui dont on ne paye les charges sociales que du pays d'origine, ce qui permet de, en fait, d'économiser un tiers à peu près des coûts salariaux. Et l'Allemagne l'utilise énormément, et puis jusqu'à, d'ailleurs, cette année, l'Allemagne n'avait même pas de SMIC non plus. Donc ça lui permet d'avoir des coûts du travail beaucoup plus faibles. Alors c'est vrai aussi qu'elle, elle a beaucoup plus aussi concentré ses abattoirs, mais la question c'est ça, c'est est-ce qu'on veut faire comme l'Allemagne et donc être le plus concurrentiel et combattre l'Allemagne avec les mêmes armes. À ce moment-là, ça veut dire accepter des fermes de 1000 vaches, ça veut dire accepter des porcheries encore plus grandes, ça veut dire aussi accepter une destruction de l'emploi dans les abattoirs en concentrant encore davantage, en automatisant, puis ça veut dire aussi accepter un démantèlement du droit du travail avec de plus en plus un coût, entre guillemets, du travail réduit qui amènera à une précarisation rampante des travailleurs.
Et donc, tu parlais tout à l'heure de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a un peu poussé à toute cette évolution au niveau plus international, créant un véritable marché de l'agroalimentaire et de la vente des produits. Et l'OMC, maintenant, évolue. Tu peux nous expliquer un peu quel était le rôle de l'OMC et quelle est l'évolution de l'OMC vers des traités un peu différents aujourd'hui?
Alors l'OMC, c'est environ 150 pays, c'est ce qu'on appelle les négociations multilatérales. Et en fait, à l'origine, c'est le GATT, créé à la fin, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour objectif de coordonner le commerce international. Donc aujourd'hui, 150 pays, quasiment tout le commerce international est dedans. Donc le but affiché de l'OMC sur le site, c'est bien la libéralisation des marchés, c'est-à-dire la suppression progressive de toutes les barrières aux frontières, qu'elles soient en termes de droits de douane ou de protection sanitaire, phytosanitaire, etc. Donc c'est vraiment une libéralisation de marché qui entraîne une mise en concurrence de plus en plus effrénée. Mais donc dans l'agriculture, et de manière générale, il y a eu un gros accord en 94 qui s'appelait l'accord de Marrakech, mais sur tous les secteurs agricoles, industriels, etc. Et donc ça a amplifié, ça a entraîné une dérégulation de marché très forte, un démantèlement des politiques agricoles de tout un tas de pays. Mais j'ai envie de dire, attention à pas mettre tout sur le dos de l'OMC, parce que en même temps l'Union européenne a accepté ça et a même parfois été plus royaliste que le roi en dérégulant au-delà même des termes de l'OMC. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui l'OMC est en panne, il n'y a plus d'accord général depuis 1994. Et en fait, une façon de contourner l'OMC pour les pays riches, c'est en fait de multiplier ce qu'on appelle maintenant les accords de libre-échange bilatéraux. C'est-à-dire que ça va plus loin que les termes de l'OMC en termes de dérégulation de marché. Et le plus connu, l'accord de libre-échange le plus connu actuellement en cours de négociation, c'est évidemment l'accord transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, qui amènerait en matière agricole à vraiment, à mon avis, une catastrophe, hein, notamment pour la viande bovine. Et tous les modèles, quasiment tous les modèles, montrent que, en tout cas, le secteur agricole sera perdant. Même des modèles des modèles dont on ne peut vraiment pas soupçonner qu'ils soient anti-libéraux au départ. Parce que tout simplement, l'Europe se protège beaucoup plus que les États-Unis en termes de droits de douane. Donc si on démantèle les droits de douane, on sera très perdant. Par exemple, la viande bovine, on va être en concurrence. Nos élevages extensifs à l'herbe et tout ça, qui sont encore des exploitations familiales, seront en concurrence avec les énormes feedlots, c'est-à-dire des énormes unités d'engraissement à plusieurs dizaines de milliers de bêtes, par exemple, aux États-Unis, hein. Donc même d'ailleurs du bœuf sans hormones, hein, on aura beaucoup de mal à être concurrent, à être compétitif avec les États-Unis, et on risque de démanteler une agriculture familiale en Europe, quoi.
Et pourtant, c'est bien l'Union européenne qui est demandeur. Et là, je prends ton ouvrage, par exemple, pour prendre un exemple concret, pour comprendre comment se monte ce traité de manière concrète entre l'Europe et les États-Unis. C'est la Commission européenne de Bruxelles qui pilote ça. Et entre autres, tu cites que sur les 130 rendez-vous que la Commission a pris pour parler, comment monter le texte dans 2013, je crois, sur 130 rendez-vous, il y en a 119 que la Commission a fait avec des transnationales ou des lobbies industriels. Ça laisse songeur sur comment ils prennent en compte les desiderata et les besoins européens.
Bah, c'est sûr que, je veux dire, les plus gros lobbies en faveur de l'accord transatlantique, c'est évidemment les multinationales, hein. Et vraiment, c'est les multinationales européennes et américaines contre les citoyens américains et européens. C'est pas les États-Unis contre l'Europe, hein. L'Europe, les multinationales européennes ont fait un énorme lobbying aussi pour que l'accord transatlantique aboutisse, parce qu'on a des intérêts offensifs, hein. Par exemple, Veolia, etc., aimerait bien aller shipper les marchés publics aux États-Unis. Vous savez que aux États-Unis, les collectivités locales, par exemple, ont le droit de préférer les producteurs locaux ou les entreprises locales quand elles font un appel d'offres. Vous savez qu'en Europe, c'est interdit du fait du droit de la concurrence. Mais j'ai envie de dire, on ferait mieux d'imiter. Pour relocaliser les activités, on aurait mieux fait d'imiter les États-Unis. Mais au lieu de ça, on espère leur shipper les marchés, leurs marchés publics, en les obligeant au contraire à ouvrir leurs marchés publics à nos multinationales. Donc pour vous dire que c'est pas seulement les vilains méchants américains qui veulent attaquer les Européens, nous aussi on a des multinationales qui se battent bec et ongles pour faire aboutir cet accord transatlantique qui sera une catastrophe, je le dis, pour l'agriculture. Je pense qu'elle perdra beaucoup, beaucoup d'emplois, beaucoup d'exploitations familiales en particulier, parce qu'on risque en plus de s'orienter de plus en plus vers un modèle agro-exportateur d'agro-business, hein. Mais également, on va perdre beaucoup de richesses et de valeurs ajoutées, hein, avec cette ouverture des frontières forcenées. Et en plus, avec des risques sur les normes sanitaires et phytosanitaires, puisqu'actuellement, les biotechnologies, par exemple, comme Monsanto aux États-Unis, font une pression énorme pour alléger, faciliter leurs exportations vers chez nous, par exemple en augmentant la liste des OGM qu'on peut consommer et importer, ou alors, par exemple, en acceptant la viande traitée à la ractopamine, qui est un additif alimentaire qui est aujourd'hui refusé par 160 pays dans le monde, quoi. Et il y a des bonnes chances que ça aboutisse, hein. Donc, vous voyez, il y a des gros risques à la fois économiques, sociaux, sanitaires, phytosanitaires, environnementaux. Donc, le problème, c'est que il n'y a pas que cet accord transatlantique en plus, hein, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'accords, soit conclus, soit en cours de négociation, rien qu'au niveau de l'Union européenne avec le reste du monde. Et voilà, donc effectivement, c'est quand même très important aujourd'hui de stopper cet accord transatlantique, parce que si on stoppe celui-là, on a des chances de stopper les suivants et de remettre en cause le processus général.
Très bien, alors on a bien compris toute l'évolution de ces traités. Gaëlle nous parlera d'ailleurs de l'actualité, de l'évolution, de la mise en place de ces traités. Il paraît qu'il y a des bonnes nouvelles. On va voir ça tout à l'heure. On te reprend dans deux minutes pour parler plus précisément de la réalité sur le terrain des modes de production. Et en attendant, pour bien faire comprendre aux Parisiens que nous sommes, comment une vache peut arriver à Paris sur l'étal, nous allons écouter une vieille chanson de Robert Lamoureux, chantée aussi par Jean Poiré, mais qui est reprise ici par le groupe Clémentine, La vache à 1000 francs.
premier temps de la vache. Toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête, il y a moi, la vache. Oh, la vache nous rendra fous. Oh, la vache, la sauvage. Oh, la vache nous rendra fous. Oh, la vache, la sauvage. Oh, la vache, la sauvage.
Bonsoir, 106.3, fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous retrouvons au téléphone Aurélie Trouvé, maître de conférence en économie, qui nous expliquait tout à l'heure la crise de l'élevage en repartant de l'histoire de l'évolution de la politique agricole commune et aussi des transactions financières, enfin, internationales, de la dérégulation au niveau européen aussi. Là, on va plutôt parler maintenant de l'impact plus dans les modes de production. Dans la première partie de l'ouvrage d'Aurélie, on parle en détail de plusieurs exemples de fermes, en partant d'une petite ferme jusqu'à ces fameuses farms à 1000 vaches. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu comment les modes de production ont évolué proportionnellement alors ?
Oui, alors il faut savoir d'abord que cette augmentation de la taille des exploitations, cette intensification en capital, qui vient tout, en fait, les machines, les bâtiments, les engrais, etc., tout va dans un même sens, c'est produire toujours plus par travailleur, par bête et par hectare, par unité de surface. Hein. Donc c'est ça, moi, que j'appelle le productivisme, hein, produire toujours plus par hectare, travailleur, et par bête. Tout ça avec un grand renfort donc de machines, de bâtiments, et puis surtout d'engrais, de pesticides, etc. Et surtout avec toujours moins de travailleurs. Eh bien, tout ça n'est pas nouveau, hein, puisque ça date... il y a eu notamment une forte avancée après la Seconde Guerre mondiale, avec toute une politique qui a poussé vers ça. Mais, à mon avis, on est aujourd'hui dans une période, disons, d'accélération et de basculement, notamment de basculement d'une exploitation familiale, en fait, vers de plus en plus des exploitations à caractère capitaliste, dans le sens où... Vous prenez la ferme des 1000 vaches, par exemple, qui est à Abbeville, hein, près d'Amiens, dans Picardie. Eh bien, dans cette ferme, le principal détenteur de fonds, celui qui détient les capitaux, eh bien, c'est un financier qui n'a rien à voir avec le monde agricole, qui ne travaille pas sur l'exploitation. Et donc, à force de d'avoir ce grossissement d'exploitation, eh bien, on a, alors en France, ça reste marginal, mais c'est déjà beaucoup plus amplifié dans d'autres pays du monde. On a, eh bien, on va vers cette exploitation capitaliste, cette entreprise agricole capitaliste, où finalement, eh bien, comme dans n'importe quelle autre grande entreprise, on a des détenteurs de capitaux qui ne travaillent pas sur l'exploitation. Et donc, on n'a plus cette exploitation familiale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, modèle productiviste, risque de fuite vers aussi un modèle capitaliste. Hein. Et puis surtout, je crois que la crise aujourd'hui de l'élevage, elle est donc une crise aussi du mode de production, parce que ce sont des modes de production qui coûtent de plus en plus cher du fait de l'alimentation animale, notamment on a de moins en moins de prairies, on a de moins en moins d'animaux en plein air. Et ça demande de plus en plus, en fait, d'alimentation animale cultivée, hein, le maïs, le soja importé, souvent d'Amérique latine. Et puis, ça coûte de plus en plus cher en énergie, en bâtiments, etc. Et d'ailleurs, les exploitations les plus en crise aujourd'hui, ce sont les plus grosses exploitations qui sont aussi les plus endettées. Donc, je pense qu'il y a une crise aussi du mode de production qui fait qu'il y a des très forts coûts de production avec des très forts endettements. Ce qui fait que ce sont les plus gros aujourd'hui qui tirent le plus la langue. Et aussi avec des produits qui en sortent, qui sont des produits, disons, de qualité très standard, et donc incapables d'être valorisés par des signes de qualité. Et je pense qu'une façon de s'en sortir aujourd'hui, c'est d'avoir une agriculture plus autonome en alimentation animale, donc qui revient vers les prairies, pour le porc, qui revient du porc sur paille, ou du porc en plein air et pas du porc sur caillebotis. Donc d'avoir des systèmes plus autonomes en alimentation animale, plus autonomes par rapport à l'énergie, moins endettés et qui sortent des produits avec de meilleurs prix, le bio, des produits, des appellations d'origine protégée, des circuits courts aussi pour court-circuiter les intermédiaires. Et fort heureusement, ça se développe. Le problème, c'est que ça reste une agriculture et une alimentation, disons, marginale. Hein. Seulement quelques pourcents de la production est en bio, ou en circuit court, ou en signe de qualité. Hein. Et c'est bien dommage. Il faudrait que ça devienne un modèle de plus en plus dominant. Et voilà, donc on a, je pense aussi, cette crise du mode de production réellement. Hein, et il faut qu'on ait aujourd'hui une action publique forte pour pouvoir réorienter ce mode de production.
Mais alors j'ai une question à te poser. C'est j'ai lu une étude sur la nourriture des, notamment des bovins, qui apparemment serait quasiment gratuite si on fait de l'herbage traditionnel, alors que dans des fermes industrielles ça coûte une fortune. Et à l'arrivée le produit est bien meilleur. Alors comment se fait-il que avec ce mode de calcul qui montre que l'herbe est moins chère et donne de la meilleure qualité, on continue à développer des 1000 vaches?
Alors, faut d'abord savoir que derrière tout ça, il y a eu des tendances longues, hein, parce que, on a voulu produire toujours plus par vache, par unité de surface et par travailleur. Et ben pour ça, il fallait passer un modèle maïs-soja avec concentré additionnel dans l'alimentation animale et donc arrêter complètement ou partiellement le pâturage. Hein. Donc, on a eu une longue évolution, mais en plus avec des politiques qui ont aidé, des décisions publiques qui ont aidé. Par exemple, dans les années 90, on a beaucoup plus payé les surfaces en maïs et en maïs en silage sans rien donner comme aide aux surfaces en prairie. Hein. De la même façon qu'on a des droits de douane nuls, donc le soja rentre sans aucune taxe depuis les années 60, en fait. Donc, entre du maïs qui était fortement aidé, les prairies pas aidées, et du soja qui rentrait à droits de douane nuls d'Amérique, ben forcément, ça a déjà poussé dans ce sens-là. Et avec cette orientation productiviste, il faut toujours produire plus, produire plus, produire plus, même si c'est des coûts de production supérieurs et un prix inférieur à la fin, et donc une valeur ajoutée inférieure. Hein. Donc il y a des tendances longues qui peuvent expliquer cette orientation, et je pense que c'est un leurre, hein, effectivement. C'était vraiment ce productivisme est un leurre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des aides massives de la politique agricole commune, qui sont distribués par hectare et qui n'ont rien à voir avec les services environnementaux rendus par les exploitations. Au contraire, des études montrent que plus on pollue et moins on crée d'emplois par hectare et en général et plus les exploitations obtiennent des aides importantes par unité de surface. Donc ces aides distribuées par hectare, elles sont d'autant plus fortes dans les exploitations qui polluent le plus et qui créent le moins d'emplois. Donc c'est comme on marche complètement sur la tête, hein. Donc ça veut dire aussi que il y a aussi une responsabilité politique et des décisions à prendre. Et quand même la PAC, la politique agricole commune et ces aides-là, c'est pas rien. Hein. C'est l'entièreté du revenu agricole aujourd'hui qui est représentée par des aides. Si vous enlevez les aides, les agriculteurs en moyenne touchent zéro en France. Hein. Et par ailleurs, ces aides, ça coûte quand même 150 à 200 euros par habitant par an. Hein. Donc en tant que contribuable, on est quand même en mesure, en droit de réclamer et de savoir ce qui se passe, à quoi ça sert et de demander que ça aille vers des agricultures qui offrent des services en matière environnementale et sociale.
Et surtout que pour concurrencer ce qui peut se passer dans le reste du monde, là je reprends ton ouvrage avec l'exemple de l'agro-business russe, de la holding Miratorg, qui produit 3 millions de têtes par an, 150 000 cochons produits chaque année sur chacune des exploitations.
On n'a pas le droit de parler des Russes comme ça.
Ça fait une prise de poids par cochon de 750 grammes par jour. Et c'est ce genre de ferme, si on veut le mettre en rapport avec les chiffres français, je vais faire un truc qui est pas très propre et un peu triste, mais c'est qu'on a un agriculteur sur deux, n'importe quoi, tous les deux jours en France, un agriculteur se suicide. C'est, je veux dire, vouloir partir sur une concurrence face à un modèle russe, on peut le comprendre. Hein.
Oui, alors en plus, bon, c'est pas qu'en Russie, mais c'est pareil notamment dans les pays de l'Est, hein, de l'Europe, on a une agriculture extrêmement duale, parce qu'on a la constitution d'exploitations géantes, de plusieurs milliers d'hectares, de plusieurs dizaines de milliers de têtes parfois, hein, aussi, mais en même temps, on a aussi une très grande partie des exploitations, la plupart qui sont des toutes petites exploitations de quelques hectares, hein, Donc en plus, ce sont des modèles vraiment avec beaucoup de dualité. Mais effectivement, l'exemple que vous donnez en Russie, mais on pourrait donner aussi des exemples aux États-Unis, hein, où la moitié de la production laitière aux États-Unis est faite par des fermes de plus de 1000 vaches. Effectivement, si on joue à ça, si on joue à la concurrence avec le reste du monde sur des produits standards, avec les mêmes règles, enfin avec les mêmes règles, non, avec un libre-échange généralisé, il faut qu'on fasse, on sera obligé, on s'orientera vers ce type de modèle. Et je pense que c'est pas ce que veut aujourd'hui le consommateur, c'est pas ce que veut le citoyen, c'est pas ce que veut l'usager des espaces ruraux, des campagnes. On a, je pense, pas envie de voir ça dans nos campagnes. Mais pour ça, du coup, il faut, eh bien, des politiques spécifiques qui, à mon avis, sont obligées d'intervenir fortement et sur les marchés et pour réorienter les systèmes de production. Et voilà, je le répète, je pense vraiment qu'il faut s'orienter vers ces agricultures autonomes. Et donc, il y a des solutions. Il y a des solutions en revoyant fortement la politique agricole commune, en remettant en cause la libéralisation des échanges via, par exemple, les accords de libre-échange comme l'accord transatlantique. Et une dernière réponse. Alors, moi, j'ai une idée. Enfin, il y a une idée que je porte beaucoup aussi. C'est l'idée de la restauration collective. Je pense que là, il y a un énorme levier en permettant à tous les enfants de France déjà de consommer des produits bio et sains et locaux. Pour ça, eh bien, il faut là aussi une forte incitation de la part de l'échelon national et puis des collectivités locales et donc des appels d'offres qui se tournent avant tout vers ces producteurs locaux qui font des produits de qualité, sains, bio, etc. Et je trouve que c'est, à mon avis, une excellente idée pour former les enfants déjà à une bonne bouffe, hein. Et ensuite pour faire en sorte que ce soit pas seulement une petite partie de la population qui en profite, mais vraiment l'ensemble des couches sociales, quoi.
Tu cites même l'exemple à Dijon de la récupération d'hectares qui sont aujourd'hui occupés illégalement avec des associations, nombreux habitants, pour cultiver des jardins collectifs. C'est aussi des démarches qu'on aime bien entendre dans un cadre de résistance citoyenne.
Oui, alors c'est vrai que moi je trouve que le monde agricole et alimentaire est peut-être parce que ça parle aux gens, parce que ça parle d'un des droits humains les plus fondamentaux, celui de se nourrir de façon suffisante et saine, parce que ça touche au ventre, parce que ça touche à nos enfants et à la qualité des aliments, hein, et au fait qu'on ait des aliments sains et parce que ça touche à nos paysages, parce que ça touche à notre imaginaire aussi. On a tous souvent des grands-parents agriculteurs ou des tantes, des oncles, etc. Pour toutes ces raisons-là, il y a des résistances très fortes qui remettent en cause radicalement la dérégulation de marché, qui remettent en cause la mise en concurrence effrénée, la recherche de profit avant tout par des multinationales. Tout ça est remis en cause par tout un tas d'initiatives citoyennes vraiment très très intéressantes. Vous avez cité celle de Dijon, mais de manière plus générale, on pourrait citer les associations de maintien de l'agriculture paysanne, les fameuses AMAP, qui sont tout un mouvement pour faire des contrats directs entre producteurs, agriculteurs et consommateurs. Le mouvement Terre de Liens, qui récupère des terres pour les mettre en contrat avec des producteurs en bio, des petits producteurs en bio, etc. Bon, il y a tout un tas d'initiatives, les BioCoop, donc il y a tout un tas de coopératives également. Il y a la Louvre qui est en train de se créer un grand supermarché coopératif, un supermarché coopératif dans la région parisienne. Bon, tout un tas d'initiatives qui viennent des consommateurs et qui viennent renforcer aussi des mouvements paysans très très importants, hein. La Confédération paysanne notamment porte ces idées-là depuis longtemps et représente quand même aujourd'hui à peu près 20% des agriculteurs. Et beaucoup d'agriculteurs même qui sont dans d'autres syndicats partagent de plus en plus, je pense, ces idées-là. Donc il y a effectivement un gros lobby du syndicalisme agricole majoritaire, la FNSEA, pour le productivisme, et à mon avis qui se plante complètement. Mais vous avez aussi toute une France...
En même temps, la moitié de leurs adhérents vont se suicider.
Pour une autre agriculture, quoi.
Et ça, pour le Parisien, tu citais l'exemple de la Louve qu'on a reçu dernièrement dans l'émission. C'est pour peut-être un peu rebondir aussi sur le fait qu'à Paris, on peut se sentir un peu démunis. Non, les AMAP sont dans Paris, les supermarchés avec ce mot qui peut être un peu détesté, il y a une remise en cause de ce qu'est le supermarché à la Louve, tout en étant un supermarché. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être plaire aux Parisiens et sentir véritablement que d'autres modes de production, d'achat, de lien avec la terre sont possibles.
Mais on voit que justement, c'est pas gagné parce que la Louve s'installe à 50 mètres du super projet immobilier dont je parlais tout à l'heure.
Mais ils ont des clients en plus. Oui.
Eh bien, moi, je trouve ça, la Louve, je trouve ça génial parce que par ailleurs, je pense que tout le monde n'a pas ni la dispo, ni l'information, ni le souhait de passer par une AMAP où il faut quand même un certain investissement. Bon, et je trouve que des initiatives comme la Louve, moi, je sais que je vais, je vais au Nouveau Robinson, qui est une biocoop en gros à Montreuil. Bon, voilà, c'est des façons aussi. De manger tout de même bio dans des démarches quand même relativement éthiques et tout en ne fournissant pas des profits mirobolants aux multinationales de la grande transformation et de la grande distribution. Voilà, c'est des nouvelles façons de faire, je trouve, qui sont très intéressantes. Maintenant, attention aussi à pas tout mettre dans le même panier. Je pense par exemple à La Ruche, où là derrière, ce sont quand même des actionnaires, notamment des gros actionnaires qui sont derrière. Donc je pense qu'après, il faut être vigilant sur les démarches. Privilégier le coopératif avec derrière un vrai esprit coopératif, mais c'est valable en tant qu'usager consommateur pour l'alimentation, comme par exemple pour les banques. Hein. Aujourd'hui, on a la nef qui permet ça. Donc voilà, c'est tout un processus de réappropriation de nos achats, de nos usages dans ce sens-là. Et bon, voilà, je trouve que vraiment en alimentation, on a aujourd'hui une prise de conscience. Aussi par la montée du bio, même s'il n'est pas suffisant, et de tous les circuits courts, quoi.
Et aussi des modèles sociaux, vu que c'est ces supermarchés que peut être la Louve ou des petites épiceries de quartier, comme il y en a une qui s'installe à Saint-Denis en ce moment de manière coopérative, plutôt qu'avoir imaginé qu'il y a toute une chaîne de gens qui travaillent pour soi, pour pas grand-chose, bah c'est chacun vient donner une journée de travail par an ou un peu plus parfois, pour aider un processus humain bien différent.
Tout à fait. Et voilà, ça remet de l'humain, mais je crois de manière générale que ce soit pour ces exploitations paysannes qu'on défend, en tout cas moi que je défends, et que pour ces nouveaux modèles de distribution, je crois qu'il y a aussi l'idée qu'on est dans une période de chômage de masse, et que ce qui apparaît le plus logique aujourd'hui pour répondre à cet enjeu, c'est pas de toujours plus remplacer les humains par des machines, mais au contraire, et de privilégier l'humain, de privilégier le travail, évidemment dans des conditions de travail les plus décentes possibles, et avec tout le progrès qu'on a fait sur les conditions de travail, mais ne arrêter de remplacer donc les humains par des machines, réinstaurer de l'humain, redéployer du travail. Ce qui permet par ailleurs dans les exploitations paysannes d'arrêter d'aller toujours plus vers une intensification capitalistique, c'est-à-dire plus de machines, plus d'intrants, d'engrais, etc. Et donc c'est aussi mieux respecter la planète. Et ce qui est génial, c'est que quand on parle d'une autre agriculture, on relie complètement les questions sociales et environnementales, parce que le fait de remettre de l'humain à la place d'une intensification en engrais, etc., ou en machines, bâtiments et tout ça, c'est aussi... et bien une préservation des ressources fossiles, des ressources naturelles, etc.
Eh bien, merci pour cette conclusion et on te remercie d'être venu téléphoniquement à cette interview. Et on enchaîne sur le reste de l'émission avec Jean-Marc qui voulait faire une petite blague sur le gouvernement, je crois.
Non, c'est super chronique. Je voulais faire un commentaire sur le remaniement. Fin de la chronique.
Chronique radiophonique. Et nous écoutons maintenant Gaël qui va nous reparler de ces traités, parce que tu aurais des bonnes nouvelles sur les traités, la négociation des traités transatlantiques.
Eh oui, si vous écoutez FPP le vendredi soir, vous avez sans doute déjà entendu parler d'accords de libre-échange, et cette fois on a de bonnes nouvelles. La Cour de justice européenne a annulé l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc. Le motif, c'est simplement que l'accord englobe le Sahara occidental, qui est occupé illégitimement par le Maroc depuis 1975. Les négociateurs européens n'ont même pas dû penser que ça posait un problème, puisque des entreprises européennes font déjà affaire avec le Maroc pour exploiter le Sahara occidental. En particulier, on achète au Maroc des licences pour pêcher sur les côtes de ce pays occupé. Le Front Polisario, le principal mouvement de résistance sahraoui, a d'ailleurs porté plainte auprès de la Cour de justice européenne. et on peut espérer que les juges poursuivront sur leur lancée. L'autre bonne nouvelle, c'est que la mobilisation contre le TAFTA gagne du terrain. Alors le TAFTA, c'est pas seulement un tissu, c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, dont l'idée générale est de donner toute liberté aux multinationales et de faire primer le business sur les considérations sociales et environnementales. Pour donner une idée de ce que représenterait le TAFTA, il suffit de regarder l'application de l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange existant déjà entre l'Union européenne, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Récemment, le président Obama a décidé de ne pas autoriser le projet d'oléoduc Keystone XL qui devait servir à transporter du pétrole bitumineux de l'Alberta au Canada vers le golfe du Mexique. Il faut savoir que le pétrole bitumineux, c'est l'un des pétroles dont l'extraction est la plus polluante. L'entreprise canadienne qui portait le projet, TransCanada, réclame alors 15 milliards de dollars de compensation. Parce que la décision d'Obama, qui est pourtant écologiquement justifiée, la prive des profits qu'elle escomptait. Et selon l'ALENA, cette entreprise a raison et peut poursuivre les États-Unis devant un tribunal arbitral, c'est-à-dire un pseudo-tribunal composé d'avocats d'affaires. Dans une autre affaire de pétrole, c'était le contraire, c'était une entreprise états-unienne qui portait plainte contre le Canada pour entrave aux profits escomptés. Car le Canada avait osé bloquer des explorations pétrolières pour de simples raisons environnementales. Et le TAFTA, donc ce projet de traité entre l'Union européenne et les États-Unis, suit la même logique que l'ALENA. Il permettrait à une entreprise européenne ou nord-américaine d'attaquer une décision publique dès lors que cette décision menacerait ses intérêts, et même si la décision est nécessaire à la santé publique ou à la protection de l'environnement. Heureusement, les gens se mobilisent. Depuis février 2014, 550 collectivités territoriales se sont déclarées hors TAFTA. En octobre, une manif anti-TAFTA a rassemblé 150 000 personnes à Berlin. Et le collectif Stop TAFTA a lancé une pétition européenne qui a déjà récolté 3,3 millions de signatures. De manière générale, le fait même qu'on parle du TAFTA dans les médias dominants, alors que personne à part nous n'en parlait il y a 2 ans, c'est un signe très positif. Alors dans le camp d'en face, ça se mobilise aussi. Le 12e cycle de négociations sur le TAFTA va avoir lieu à Bruxelles du 22 au 26 février et les négociations vont vraisemblablement s'accélérer à cause de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2016. Les gouvernants aimeraient bien boucler ces négociations avant la fin du mandat d'Obama. Et on les comprend puisque le candidat social-démocrate Bernie Sanders est opposé au TAFTA et qu'il dispute aujourd'hui sérieusement l'investiture démocrate à Hillary Clinton, qui, elle, est favorable au TAFTA. L'histoire n'est pas finie, vous pouvez y participer en rejoignant le collectif Stop TAFTA. Il y a déjà 144 comités locaux en France. Pour trouver le plus proche de chez vous, il suffit d'aller sur le site web www.collectifstoptafta.org, TAFTA s'écrivant T-A-F-T-A.
Et ce qui permet d'enchaîner sur l'agenda des activités que vous pouvez faire ce mois-ci, Jean-Marc.
Alors, le lundi 15 février à la Maison du Développement Culturel, 16 rue Julien Mocquart à Gennevilliers, dans le 92, les frontières de l'Europe, une barrière infranchissable, point d'interrogation, Université Populaire des Hauts-de-Seine, conférence de Claire Rodier, juriste, membre du groupe d'intervention et de soutien des immigrés, plus connu sous le nom de GISTI.
Mardi 16 février, au Centre International de Culture Populaire, le CICP, 21 Terre rue Voltaire, une rencontre autour d'Imperium de Frédéric Lordon, Que fait l'État? Que faire de l'État? Un débat organisé pour l'émancipation avec Frédéric Lordon, Isabelle Garraud et François Sabados. C'est à 19h le mardi 16 février.
L'état d'urgence, danger pour les libertés. Un observatoire de l'état d'urgence vient d'être créé à Paris 12e avec des différents collectifs présents dans le 12e arrondissement de Paris, Amnesty International, ATEC, le collectif de vigilance, etc., la commune d'Aligre. Et il vous propose de venir écouter un débat au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, le mardi 16 février 2016 à 20h avec entre autres Jean-Pierre Dubois, ancien président de la LDH, et Louis Plenel, rédacteur de Mediapart.
Alors, tous les mercredis de février à 19h30, au local de la CNT 33 rue des Vignoles, dans le 20e arrondissement, Assemblée Générale du collectif Notre-Dame-des-Landes, Île-de-France, réunion hebdomadaire du collectif, ouverte à tous et à toutes. Et avec l'annonce du référendum, ça devient intéressant d'aller y faire un tour, peut-être.
Jeudi 18 février à 19h, au bar-restaurant Le Lieu-dit, 6 rue Sorbier, un débat autour de l'empire de la, l'empire de la surveillance. C'est le dernier livre de Ignacio Ramonet. Donc ce sera une rencontre avec Ignacio Ramonet, qui est directeur du mensuel Le Monde Diplomatique, et enfin qui a été, qui est cofondateur d'Attac et de MediaWatch Global, et qui est actuellement directeur d'édition espagnole du Monde Diplomatique.
Vérité et mensonge sur la SNCF. Entrée libre, c'est un film coup de poing qui lève le voile sur un service public dévasté, une véritable sonnette d'alarme. Vous pouvez venir voir ce film et écouter ce débat au cinéma Frédéric Dard, au Mureau, 77 rue de Paul Doumer. Au début du film, la chorale Les Rouges-Gorges feront des chants populaires et des luttes.
Alors, vendredi 19 février à 18h, à librairie Résistance, au pluriel, 4 Villa Compoint, dans le 17e arrondissement, les arrestations d'enfants de Jérusalem-Est, deux Palestiniens viennent nous en parler. Donc, toujours les résistances face à l'oppression israélienne dans les territoires occupés et dans Jérusalem-Est. Des films et des débats.
Samedi 20 février 2016, à 12h, place devant le métro Ménilmontant, un banquet contre l'état d'urgence avec barbecue, cantine, vin chaud, DJ, table d'information, projection, banderole.
Et sur le parvis de la gare RER d'Enfer Rochereau, il y a un cercle de résistance qui se réunit tous les jeudis à 18h30. Et le 25 février, particulièrement, il y aura en plus des débats avec des thèmes comme évidemment « Être sans papier n'est pas un délit, c'est une situation administrative intolérable ». Et venez vous réunir tous les jeudis soirs.
Alors, le samedi 27 février à 5h30, Notre-Dame-des-Landes, ni expulsion, ni aéroport. Toutes et tous le 27 février à Notre-Dame-des-Landes. Alors, bien, vous pouvez avoir des renseignements plus précis sur http://paris.demosphere.eu.rv/44559.
Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un départ en bus, pas trop cher. Renseignez-vous pour aller sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes la journée du samedi 27. Et ce qui termine notre émission, nous remercions donc Aurélie qui était là au téléphone, Aurélie Trouvé, Jean-Marc et Kaël à la chronique et Claude à la technique. Et on termine en écoutant Eric Truvas et Oximo Puccino.
S'offrir des éloges, un cocktail de poésie. Le boom prend au trip, le tchaka la carotide. Boom tchak boom, satisfaction garantie. Donne-moi un rythme.